Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable à porter avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Pour cette première édition, je suis Delphine. Delphine a 42 ans, elle est enceinte de son premier enfant et elle a accepté que je la suive pendant cette grossesse particulière, en 2020, entre deux confinements. Dans ce premier épisode, nous commençons par le commencement et nous abordons avec Delphine l'étape de la procréation et les obstacles qu'elle a dû franchir entre parcours de PMA, désillusion, pause et confinement pour arriver à sa grossesse. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, on inaugure un nouveau format du podcast. Je suis avec Delphine pour inaugurer ce nouveau format. Bonjour Delphine.
Bonjour Marie.
Donc Delphine, t'es enceinte, t'es dans ton premier trimestre de grossesse. Et donc en fait, l'idée, c'est de te suivre pendant toute ta grossesse pour que tu nous racontes un petit peu les étapes que tu traverses. Donc voilà, je te remercie vraiment d'avoir accepté...
Aucun problème, avec plaisir.
Voilà, cette aventure. Bon, je le précise tout de suite. Avec Delphine, on se connaît, donc on est amis depuis longtemps. Donc merci encore de participer à Nouveau Chapitre et de nous permettre de te suivre pendant cette période. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Delphine, j'ai 41 ans, j'habite à Marseille depuis 2 ans et anciennement parisienne pendant 10 ans.
Et t'es enceinte de ton premier enfant.
Et je suis enceinte de mon premier enfant, exactement.
Voilà, alors pour commencer en fait ce nouveau format, on s'est dit qu'on allait commencer par le commencement. Donc sur cet épisode, on va se concentrer sur le avant ta grossesse, donc sur toute la phase de procréation, si on peut l'appeler comme ça. L'idée, c'est qu'on comprenne un petit peu la démarche. Je crois que c'était il y a 1 an et demi que t'as commencé un peu à te mettre dans ce projet de maternité. Oui. Donc est-ce que tu pourrais déjà nous dire, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que t'as toujours eu une envie de maternité ? Enfin, comment c'est venu pour toi ?
Alors déjà, c'est venu assez tardivement, en tout cas par rapport à mes amis. J'ai eu des envies, honnêtement, assez récentes d'avoir un enfant. Je pense que c'est dû à pas mal de choses. Déjà à mon travail, parce que j'ai été, je pense, pas mal de temps assez carriériste et je pense que ça prenait quand même pas mal de place dans ma vie. Et une chose aussi qui est la deuxième chose qui est quand même assez importante, c'est qu'il faut aussi rencontrer la bonne personne.
C'est clair.
Et clairement, bon, je faisais pas forcément les bons choix. Donc voilà. Alors je sais pas si j'ai perdu du temps ou en fait si j'ai eu besoin de ça pour aujourd'hui rencontrer mon compagnon actuel. Mais en tout cas voilà, j'ai eu un parcours qui a été un peu chaotique, mais bon après on a tous un parcours différent. Et donc ouais, c'est venu récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui. Voilà, on a vraiment, en tout cas avec mon compagnon avec qui je suis depuis maintenant 4 ans. Et demi, ouais. Réfléchi à avoir un enfant.
Donc tu avais 39 ans en fait, c'est ça ?
Ouais, exactement, j'avais 39 ans. Au début, bah, classiquement, on s'est dit, bah, voilà, on essaye. Mm-hmm. Donc, alors après, juste une petite information, il faut quand même savoir que moi déjà, j'étais tombée enceinte, oui. Quand j'avais 33 ans. Oui. Bon voilà, j'avais avorté pour différentes raisons. Et donc c'est vrai que ça ne m'était jamais trop posé la question, en fait, sur le fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant, enfin, ou en tout cas que ça allait être assez compliqué. Oui. Donc c'était, voilà. Donc,
oui, ça t'avait rassuré, guillemets, dans le fait de te dire que tu pouvais tomber enceinte, en fait.
Exactement. D'ailleurs, quand j'étais tombée enceinte, je sais que quand j'avais avorté, le gynécologue m'avait dit, bah, écoutez, au moins, c'est une bonne... Au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fait, vous savez que ça marche. Ouais. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça. Après, je me souviens que pendant les années qui ont suivi, j'ai plusieurs amis qui m'avaient proposé, en fait, d'aller faire congeler mes ovules. Okay. Et moi, je le sentais pas du tout. tout. En tout cas, c'était une démarche que je me voyais pas du tout faire. Okay. Et puis parce que je pense que si inconsciemment, je m'étais dit que ça allait marcher. Donc voilà, c'était pas une option pour moi. Okay. Donc voilà, donc il y a à peu près un an et demi, deux ans, on s'est dit bah voilà, on essaye. Alors après, moi j'avais pas mal d'amis, comme je suis quand même un peu plus âgée, qui m'avaient dit bon, écoute, il faut passer par les tests d'ovulation, c'est le meilleur moyen, machin. Donc j'avais mis application sur mon téléphone, tests d'ovulation. Bon, et puis en fait voilà, bon, ça marchait pas forcément. À ce moment-là, on était à Paris, et c'est vrai que notre vie aussi à Paris, je trouvais, n'était pas forcément, en tout cas, adéquate pour avoir un enfant. Donc, et mon compagnon avait exactement la même, enfin voilà,
le même sentiment.
Ouais, exactement. Donc, on s'était dit, donc on avait un autre projet à côté qui était aussi de quitter Paris et de venir dans le sud. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et après, donc, on s'y est mis un peu plus, de manière un peu plus assidue. Donc là, c'était un peu le parcours du combattant, ce qui n'est quand même jamais trop glamour quand on doit faire avoir des rapports sur à des moments bien précis.
Sur la base de tes tests d'ovulation.
Exactement. Les tests d'ovulation et également
quand c'est
sur
le moment, quoi.
Voilà, c'est ça, quand sur l'application. Donc il y a quand même un champ de tir qui est assez réduit, donc il faut toujours être dans les bonnes conditions, faut pas s'être engueulé la veille, faut enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs, faut pas être crevé, enfin bon, bref. Donc voilà, et là c'est vrai que ça marchait pas trop. Après, il y a aussi autre chose, c'est que moi, du coup, en venant à Marseille, j'ai quand même conservé mon travail sur Paris. Mm-hmm. Donc j'ai beaucoup d'allers-retours en fait sur Paris.
Voilà, tu fais du
télétravail. Ouais, exactement. Ouais. Je suis en télétravail à Marseille et je vais à peu près 2 à 3 jours à Paris.
Par semaine
pour le travail. Ouais. Donc, ce qui est quand même assez fatigant. Et puis alors, c'est pareil, il faut aussi bien se coordonner par rapport aux périodes un peu propices dans le mois. Bref, la galère, l'enfer, que des engueulades avec son mec, enfin pas du tout évident. Donc voilà, et là en fait ça marchait pas.
Donc ça, vous avez testé ça pendant combien de temps en fait?
Au moins un an à peu près.
Un an?
Ouais, au moins un an, bien un an. Et là donc le médecin qui me suivait sur Marseille, donc qu'on m'avait conseillé, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui s'occupe des problèmes de fertilité également, à un moment je lui en ai parlé et il m'a dit bon, c'est vrai qu'au vu de votre âge, je pense que ça serait bien de faire un bilan, en tout cas hormonal, pour voir où est-ce que vous en êtes de vos hormones. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a été un peu la douche froide, parce que du coup, pour moi, ça a été un peu la catastrophe, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ma réserve ovarienne était très très basse.
Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que tu peux...
En fait, la réserve ovarienne, c'est vraiment ce qui reflète un peu le... Comment dire, pas la fécondité, mais le fait qu'en fait la femme a énormément d'ovaires. Et en fait, le stock est au maximum à 25 ans. Et malheureusement, en fait, il chute à partir de 25 ans donc, chez la femme. Et alors, après 40 ans, c'est la catastrophe. Donc voilà, ça commence à partir de 35 ans. Je crois que c'est le stock est quasiment pas divisé par deux, mais peut-être divisé par... Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais. Et après 40 ans, bon, là, c'est la catastrophe. Okay. Et donc, moi, j'en ai quand même pas mal parlé à des gens. Même mon gynécologue m'a dit, en fait, c'est normal, puisque aujourd'hui, vous avez plus de 40 ans. Donc, en fait, il n'y a rien de très étonnant.
Oui, c'était pas spécialement alarmant, en fait.
En fait, voilà, c'est ça. C'est juste que j'ai une réserve ovarienne qui reflète mon âge. Ouais. Donc, forcément, ça va être plus compliqué. Mais après, le médecin qui me suivait était quand même assez, je trouvais assez encourageant. Il m'a dit, moi, je pense qu'avec des stimulations, il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis après, changer un peu son style de vie, arrêter de fumer parce que je fumais. Et voilà. Être au calme. Alors le problème, c'était pas forcément très... Enfin, ça collait pas de choses. Enfin, ça matchait pas trop, du coup, avec ma vie professionnelle. Ouais. Et donc là, on est parti dans des stimulations.
Alors, les stimulations, c'est-à-dire que tu t'injectes des hormones pour Exactement. Stimuler l'ovulation, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'ovulation.
En fait. Exactement. Donc en fait, on commence à J+2 du mois, donc c'est ça, juste quasiment au début des règles. J'ai fait ça pendant 8 jours. Alors là, en général, il y a une échographie pelvienne qu'on fait au début et après les stimulations. Et ensuite, donc à J+8, ils font une échographie pour regarder comment est la taille des follicules. Et après ça, en fait, ils déclenchent ou pas l'ovulation. Et après, une fois que l'ovulation est déclenchée par un autre produit, par une autre injection, bon, là, on a 5 jours où, en gros, faut y aller, quoi. Donc, c'est encore très, très glamour. C'est l'enfer. En plus, moi, j'ai gonflé. J'ai eu des boutons. Enfin, bon, bref, la totale.
Ouais, t'as gonflé, tu veux dire ça. Oui, t'as...
En fait, on a exactement les mêmes symptômes qu'une grossesse, d'accord, sauf qu'on n'est pas enceinte.
T'avais le ventre gonflé tout.
J'avais le ventre gonflé. J'avais le carré. Enfin, voilà, franchement, l'humeur, c'était un peu l'ascenseur émotionnel tous les jours, c'était la cata. Je pleurais, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. On se sent pas forcément très désirable, ce qui est compliqué aussi d'avoir. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était compliqué d'avoir des rapports à ces périodes-là. Et puis, je trouve qu'on est assez seul, en fait, dans cette démarche. J'ai pas forcément trouvé qu'on était. Même mon médecin, pour lui, c'était assez classique. Vous faites vos piqûres tous les jours à la même heure. Je trouvais que c'était pas évident.
Ouais.
Et puis, même dans le couple, en fait. Je trouve que c'est pas du tout évident. Ouais. Parce qu'en fait, on est seul quand même à subir un peu tout. Ces piqûres, ces dérèglements hormonaux et
Oui, tu veux dire en tant que femme.
En tant que femme, ouais. Ouais. Et je trouve que c'est compliqué dans le couple, en fait.
Ouais, c'est-à-dire que le conjoint a peut-être un peu du mal à.
Je pense qu'il se met pas du tout à la place, ouais. Et tout. Donc il y a eu pareil des petits clashs où c'est pareil. Il y a 5 jours, donc faut pas rater le coche. Et quand l'autre ne veut pas, et là, du coup, c'est pétage de plomb parce qu'en fait, on se dit ça fait 10 jours que moi je me stimule.
Enfin, ouais, que je me fais des piqûres.
Que je me fais des piqûres, donc c'est pas pour rien. Il y a pas moyen qu'on rate un mois de plus. Enfin, encore atteint moi. Donc voilà. Et en parallèle de tout ça, donc c'était test d'ovulation, toujours. Et pareil, j'étais aussi sur mon application.
D'accord.
Et donc là, j'ai fait ça pendant. Toujours avec des doses assez basses, parce qu'en fait, il estimait que j'avais pas vraiment de problème. Parce que c'est vrai qu'en plus du bilan hormonal, on fait également. On fait une échographie des trompes. D'accord. Pour regarder si j'ai pas des trompes bouchées. Enfin voilà. Et tout le reste, c'était normal, sauf cette réserve ovarienne. Donc du coup, on a fait ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ça n'a pas marché, en fait.
Ça n'a pas marché. Non. Et en fait, t'avais des échos, non, après, à chaque fois, pour vérifier combien tu avais d'ovules, oui. Non, c'est ça.
Donc à la fin des stimulations, ils regardent les follicules, la taille des follicules, et donc en général, alors moi, ça marchait très très bien.
Ouais, ça, je me souviens que toi, tu avais une super bonne réaction aux stimulations, ouais. En fait, en ouais. Réalité.
Je répondais hyper bien sur des doses d'ailleurs assez assez minimes.
Ouais.
Je répondais hyper bien, mais voilà, ça prenait pas. Alors après, il faut quand même savoir qu'en parallèle aussi, l'homme fait également des examens,
oui.
Qui sont du spermogramme. Spermoculture, spermocytogramme. Donc voilà, donc il y avait il y a eu des moments où alors du coup le premier examen n'était pas génial, donc chez mon compagnon, et après du coup il a été meilleur.
Ouais.
Mais voilà, en tout cas ça a pas marché pendant 6 mois. Donc voilà, et donc là on a parlé du sujet de la PMA.
Ça faisait un an. Là en fait à la fin de ces 6 mois, ça faisait un an et demi en fait que vous étiez dans la démarche.
Exactement, exactement. Oui c'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup on a parlé donc de PMA. Mon médecin était pas forcément au début. Après, au début, il n'était pas très très chaud, mais après, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est vrai qu'au vu de votre âge, je venais d'avoir 41 ans, vous n'avez plus maintenant beaucoup de temps devant vous. Et donc, il m'a conseillé 2 centres de PMA sur Marseille.
Ça, juste pour revenir à l'aspect de l'âge, est-ce que toi, ça t'a mis une pression quand même, tu penses?
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Clairement.
Tu t'es dit, il y a urgence, quoi, en fait.
Ah ouais,
c'est ça?
Clairement. Clairement. Je me suis vraiment dit, bon, là, maintenant, le temps est compté. Et même mon médecin me l'avait quand même bien signalé en me disant, là, il faut que dans l'année, ça marche, quoi.
Ouais.
Ouais, il t'avait mis quand même un petit coup de pression, quand même.
Ouais, ouais. C'est exactement ça.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi, chose que j'avais jamais fait avant, au fait que j'avais déjà avorté. En me disant mince, j'espère que c'est pas une erreur, même si j'en étais persuadée qu'il y avait aucun doute là-dessus,
bien sûr.
Mais c'est quand même des choses qu'on se dit mince, j'espère que quand même je connaîtrai au moins une fois dans ma vie ce que c'est une grossesse. Et également aussi sur la réserve, sur la congélation des ovocytes, qui je trouve qu'aujourd'hui en fait en France, on n'en parle pas parce qu'en fait comme c'est illégal en France, ils le font pas, du coup aucun gynécologue nous le conseille. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui les femmes elles ont quand même elles font des enfants beaucoup plus tard pour différentes raisons. On est beaucoup plus indépendante, on rencontre la bonne personne beaucoup plus tard, le boulot prend pas mal de place. Et en fait, moi aujourd'hui j'ai pas mal d'amis qui sont confrontés à ça, on se rend compte qu'en fait on arrive à quasiment la quarantaine et que forcément physiologiquement on n'a plus le même corps que quand on avait 30 ans et que après on a une espèce d'un compte à rebours qui part là et on se dit mince, alors que pendant 10 ans je me suis amusée et que si jamais j'avais congelé mes ovules en fait, en fait ça m'aurait fait un point en moins. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui en France, en tout cas ils n'en parlent pas assez parce que ça peut se faire en Espagne, on peut le faire en Suisse, enfin voilà, on peut le faire dans d'autres endroits. Et je trouve ça dommage, parce qu'après, on se retrouve avec un tic-tac qui est genre d'une année, et on sait qu'une grossesse, ça dure 9 mois, donc on se dit, mon Dieu, j'ai pas beaucoup de temps, enfin voilà.
C'est clair.
Je trouve que voilà, c'était pas forcément très évident.
Et du coup, donc, le médecin t'a indiqué 2 centres de PMA.
Oui.
À Marseille.
À Marseille.
Donc t'es allée voir les 2 centres.
Exactement, je suis allée voir les 2.
Avec l'objectif là, d'un premier rendez-vous déjà, en
exactement.
Fait. C'est ça, une exploration, un,
voilà,
peu, un
ça.
Rendez-vous exploratoire.
Exactement. Mmh. Donc j'ai fait un premier rendez-vous, où là je suis arrivée avec tout mon dossier, en mode bonne élève. Et là, en fait, la gynécologue que j'ai vue a été assez radicale avec moi en me disant, bah écoutez, nous aujourd'hui, en gros, on n'acceptera pas votre dossier pour une FIV. Voilà, elle m'a dit, parce que je pense qu'aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque n'est pas assez élevé, donc non. Elle m'a dit, bah écoutez, de toute façon, en fait, on se réunit, on a un comité qui se réunit tous les jeudis, où là, on décide, en fait, des gens à qui on fait des FIV. Mais voilà, en tout cas, je préfère vous le dire, il n'y aura pas beaucoup de chance. Voilà. Donc moi, j'étais...
Compte tenu de ton âge.
En fait, clairement, c'est ça. Parce que je pense qu'entre moi qui ai 41 ans avec une réserve ovarienne basse et une femme de 33 ans avec une trompe bouchée, je pense que clairement, ils acceptent beaucoup plus les femmes de 33 ans voilà, que moi qui en ai 41. Et, voilà. Et là, moi, ça a été la douche froide, ça a été l'hécatombe parce que je ne m'attendais pas du tout à ça.
Ouais.
Et puis en plus, mon gynécologue avait toujours été assez optimiste. Donc en fait, là, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, on pouvait nous refuser.
Oui, on peut te refuser ton dossier.
Exactement, d'aller en PMA. Donc
ouais.
Là, je savais même
pas.
Non.
Ouais.
Là, je me suis dit, j'aurai jamais d'enfant. Et là, elle m'a parlé de la congélation des ovocytes en Espagne. Pas de la congélation. Elle m'a dit d'aller faire un don d'ovocytes en Espagne.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Faire un don d'ovocytes.
Ouais. Et donc là, moi, ça a été... Alors moi, j'étais en pleurs. Donc en plus, je suis vraiment... Pour le coup, je suis tombée sur quelqu'un qui n'avait aucune pédagogie, aucune empathie. Ça a été...
C'est fou.
Ça a été hyper traumatisant. Je me suis en plus, le rendez-vous était à 9h du matin. J'étais vraiment au bout du rôle. Donc voilà, je suis sortie en pleurs. Donc je me suis dit, bon en fait, soit on avait déjà réfléchi à l'adoption avec mon compagnon, pas forcément au don d'ovocytes, mais voilà, enfin là ça a été vraiment la douche froide. Donc après je suis allée voir le deuxième centre de PMA, et là ça a été un peu la même conclusion, en mode on est ok pour vous faire une FIV test, parce que juste vous répondez très bien aux stimulations, mais clairement on n'y croit pas. Donc là, ça a été aussi... Enfin, c'est surtout que je comprenais pas. En fait, j'apprenais, j'étais en train d'apprendre le process aujourd'hui des centres de PMA publics où, en fait, bah, y a des dossiers. Et puis, en fait, ils prennent les meilleurs dossiers. Et puis voilà. Et puis, en fait, on peut vous dire non, quoi. Donc,
ils prennent les meilleurs dossiers pour faire monter, en fait, tu penses, leur taux de réussite.
Je pense que ça... en fait, ouais. Tous les centres de PMA sont notés, en fait, en France. Comme les écoles de commerce, y a des systèmes de classement et de notation.
Ouais.
Et ils sont notés par rapport à leur pourcentage de réussite, en fait, de FIV. Et donc, je pense que ça joue, en fait, forcément, pour pas diminuer, comme les lycées, pour pas diminuer le taux de réussite au bac. du coup, voilà, c'est pareil, pour pas diminuer le taux de réussite au FIV. En fait, ils prennent, je pense, les cas qui ont le plus de chances pour eux, en tout cas, de marcher, d'aboutir exactement à une grossesse.
Non, mais c'est vrai que moi non plus, je savais pas ça. C'est une vraie découverte.
Ouais, donc là, moi, ça a été... ça a été l'hécatombe, en fait.
Ouais.
Parce qu'en plus, c'est vrai que moi, j'ai une expérience où mon frère est médecin, et eux, ils ont également passé par là. Mais ils sont beaucoup... Enfin, elle est beaucoup plus jeune. Enfin, ils sont pas du tout dans les mêmes conditions que moi.
Mmh.
Alors que moi, ça a été un non catégorique. Donc d'ailleurs, j'ai reçu 2 semaines après le courrier du premier centre qui me refusait.
Ah ouais, en plus par courrier.
Donc, en plus, après, par courrier, votre dossier n'est pas retenu pour rentrer en PMA. Enfin, bon, bref, là, cata, quoi. Enfin,
donc là, on est quel mois?
Là, on est en novembre.
En novembre 2019.
Novembre-décembre, ouais. Exactement. Et fin novembre,
exactement. En plein cœur de l'hiver.
Ouais, non, la cata.
Au moment de l'année, quoi.
La cata, en plus, je venais d'avoir 41 ans
ouais.
En octobre. Et là, je me suis dit, bon, alors c'est bon. Enfin, moi, franchement, cette période a été assez dure, en fait.
Mmh.
Puis après, sur plein de choses, on a plein de regrets sur sa vie, sur les choix qu'on a fait. Enfin, c'est. Moi, en tout cas, je l'ai...
T'as ta vie qui défile un petit
ouais,
peu, quoi.
Exactement. Donc voilà, et je me souviens, à ce moment-là, il y a une amie de Paris qui était venue nous voir à Marseille, qui était enceinte, et qui m'a dit, écoute, Delphine, j'ai eu exactement la même expérience à Paris, ne t'affole pas, je vais te donner... Donc elle, à ce moment-là, était enceinte de son deuxième par FIV. Elle m'a dit, écoute, je vais te donner le numéro de téléphone... du médecin qui m'a fait avoir mes deux enfants à Paris. Et honnêtement, va le voir, tu verras.
C'était un peu un ponte, quoi.
Exactement. Mmh. En fait, c'était l'interne du médecin qui a fait les premiers bébés éprouvettes en France, les premières FIV. Donc voilà. Donc j'ai dit, bon, ok. Et là, et en même temps, en parallèle, je m'étais aussi renseignée avec un autre gynécologue aussi privé à Marseille qui fait également des FIV. Donc, je suis allée voir ce médecin à Paris, qui n'a pas du tout eu la même approche, pour le coup. C'est-à-dire que lui n'a pas du tout regardé ni ma réserve ovarienne, ni mes résultats. En tout cas, les résultats sanguins. Et en fait, on a, je pense, pendant à peu près une heure, parlé de moi. Comment je me sentais, pourquoi aujourd'hui... moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est marrant parce que quand on vous voit arriver, on se demande comment ça se fait que vous n'ayez pas d'enfant. Pourquoi à 41 ans, vous n'avez pas d'enfant? Quel est votre passé? C'était un peu un rendez-vous un peu psy.
Ouais, c'était psy.
C'était assez déroutant. Mmh. D'ailleurs, je me suis mise à pleurer.
Tu t'attendais pas du tout à ça?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et voilà, on a beaucoup parlé de moi. Il m'a conseillé d'ailleurs d'aller voir quelqu'un qui était justement spécialisé en fait sur différents problèmes, enfin surtout chez la femme.
Un psy.
Ouais, exactement. Mmh. Il m'a conseillé un psy. Plus après d'autres examens. Mais ce qui était fou, c'est que pas une fois il a regardé mes résultats. Pour lui, il y avait aucun problème en fait. Il y avait plus un blocage en fait psychologique. Il y avait quelque chose soit dans mon passé, soit dans même par rapport au choix des personnes avec qui j'étais. Enfin, on a pas mal parlé de ça, ma relation avec mes parents, enfin des choses que je m'attendais pas du tout. Donc voilà, bon, je suis sortie, j'étais au bout du rouleau, mais pour d'autres raisons, mais parce que j'avais pleuré. Donc voilà.
Ça, c'était au mois de décembre.
Ça, c'était exactement au mois de décembre, juste avant Noël. Très sympa. Donc voilà, et voilà. Et donc là, après, j'avais d'autres examens et tout. Alors le problème, c'est qu'il était à Paris. Donc, ce qui n'est pas forcément évident.
Pour te faire suivre par lui, en fait.
Exactement.
Ensuite.
Et lui, il suit qu'à Paris.
En fait. Parce que lui, en fait, lui, après ce rendez-vous-là, il était OK, potentiellement, pour te faire une...
À lui, il m'a dit, c'est simple. Donc, il m'avait donné d'autres examens à faire, okay, qui étaient à peu près les mêmes. Et après, il m'a dit, moi, en janvier, je peux vous faire une FIV.
Okay.
On peut attaquer une FIV dès que j'ai les résultats.
Deux salles, deux ambiances, tout à fait.
Exactement, deux salles, deux ambiances par rapport aux autres où j'ai eu des catégoriques. Et là, c'était ouais, incroyable. Mm. Bon, après, c'est sûr qu'on est dans le public. Et là, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que là, lui, c'était un homme qui n'a pas du tout la même approche que... Alors après, je ne sais pas, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que pour le coup, les deux autres personnes que j'ai eues à Marseille, c'était des femmes qui ont été, je trouve d'ailleurs, avec aucune empathie et assez dures.
Ouais,
et lui a pas du tout la même approche, pas du tout. Et il m'a dit, lui, je me souviens quand on est sorti, il m'a dit, on va y arriver. Moi, je suis persuadée, vous allez avoir un enfant. Enfin, il était hyper rassurant, quoi. Pas du tout le même discours que j'avais pu avoir un mois avant, quoi.
Ouais, donc quand même la bonne idée d'aller voir, ça t'a,
ça a
déclenché un truc.
Exactement, ça m'a complètement reboosté.
Est-ce que tu dirais que cette approche psy, après, ça a continué à travailler ensuite après ce rendez-vous?
Vachement.
Il a déclenché un truc un peu.
Ouais. Puis j'ai vachement, j'ai pas mal réfléchi aux choses qu'on s'était dites. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, je pense qu'il y avait aussi clairement, je pense qu'il y a des choses, j'avais des blocages, et c'est sûr, ça c'est évident. Okay. Donc voilà.
Donc là, en fait, le problème, c'est que faire une FIV, ça demande effectivement, parce qu'en fait, au niveau pratique, technique, c'est-à-dire en fait, comment ça se passe? Tu fais une stimulation.
Exactement.
Ensuite, on t'extrait.
On
te ponctionne tes ovocytes.
Ouais. Exactement, les ovocytes.
Ouais.
Donc là, il y a une anesthésie générale. Mm-hmm. Et après, ils mettent donc les ovocytes en contact avec les spermatozoïdes pour avoir des embryons qui font après, qui laissent plusieurs temps, je crois, incubés. Enfin, je sais pas si c'est de incubation, je sais pas. Et après, ils les implantent. Il y a un transfert. Donc, en fait, il y a quand même... il faut être sur Paris. Ça veut dire, moi qui dors quand même à l'hôtel, quand même deux nuits par semaine.
Ouais.
Bon, c'est pas forcément évident. Je me suis dit... Est-ce que
oui, parce que ça voulait dire que tu fais des piqûres toute seule.
Je fais des piqûres toute seule, ça veut dire...
Pour les stimulations.
Ouais, ça veut dire que je vais me faire anesthésier, je vais rentrer, après je serai à l'hôtel le soir.
Ouais, c'est vrai.
Avec pas forcément mon compagnon, parce que c'est pareil, lui, il peut pas, même s'il est quand même très souvent à Paris, il peut pas non plus y être pendant des semaines entières ou des choses comme ça. Et puis en plus, pendant la FIV, les 8 jours de stimulation, on a un monitoring de tous les jours, en fait, quotidien, d'échographie, quoi. Donc il faut vraiment être à Paris pendant une période assez longue. Et alors moi justement, qui était complètement en train de réfléchir, de me dire écoute, je pense que justement mes trajets Paris-Marseille, c'est pas du tout compatible. Je pense que c'est peut-être ça aussi, ça joue aussi oui. sur le fait que j'arrive pas à tomber enceinte parce que je suis épuisée, qu'aujourd'hui j'ai plus le corps d'une femme de 30 ans et que je pense que pour aujourd'hui accueillir un enfant, il faut quand même que son corps il soit prêt.
Bien sûr.
Donc voilà, c'était un peu, je me disais mais en fait c'est pas du tout cohérent avec justement le fait que je vais reprendre du recul. Donc je me suis dit, je pense que c'est utile que j'aille voir cet autre médecin à Marseille. Mmh. Donc là, je suis allée
l'autre voir... médecin privé qui faisait de la...
Exactement, qui fait des PMA, exactement, okay. qu'on m'avait conseillé.
Donc pas dans un centre de PMA, mais pareil, un médecin privé. Quoi.
Exactement, un médecin privé. Donc okay. Lui, pareil, il m'a dit, oui, c'est sûr, vous avez une réserve ovarienne basse, mais franchement, il y en a qui c'est pire que vous. Donc déjà, c'est pareil, c'est rassurant. Et puis il m'a dit, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà, je pense qu'après, il faut faire directement une FIV et pas une insémination. C'est ce que l'autre médecin m'avait dit. Okay. Parce qu'il m'a dit, à votre âge, il n'y a pas de temps à perdre. Oui. Donc il vaut mieux passer directement par une FIV. Et donc j'avais un peu ces deux conclusions qui étaient plutôt optimistes, en fait, de ces deux médecins.
Au mois de décembre.
Au mois de décembre, exactement. Et là, je me suis dit, on en a pas mal discuté avec mon compagnon. Et là, je sais pas, j'ai eu en fait besoin de souffler, je pense, de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Et je pense qu'aussi, on n'était pas prêt. Bon, là-dessus, on était plutôt raccord. En fait, on n'était pas prêt non plus à avoir un enfant à tout prix. C'est-à-dire ouais. que moi, j'avais eu beaucoup d'expériences autour de moi où des amis ont fait des filles, où c'est quand même assez, assez lourd aussi, parce c'est que voilà, ça peut aussi ne pas marcher. Donc, c'est aussi l'ascenseur émotionnel. Là, j'avais eu quand même 6 mois de stim qui m'avait un peu quand même épuisée. Je pense que mon corps, il était un peu, voilà, il était un peu à bout. Donc, on en a discuté, on s'est dit, écoute, on passe les vacances de Noël tranquille. Et en fait, on prend du recul. Et moi, j'ai eu besoin de dire, bah, j'attends, en fait. J'attends, je me sens pas prête, là. J'ai pas envie de remettre mon couple aussi à l'épreuve, parce que c'est éprouvant. Et donc, j'ai aussi pas mal réfléchi à mon boulot en parallèle, ce qui n'a rien à voir. Mais quand même, je m'étais dit que je savais que les déplacements, en tout cas, cette routine...
Oui, c'est ton mode de vie, en fait. Voilà.
Je pense que mon mode de vie n'était pas du tout compatible aussi. Et donc, j'avais d'ailleurs pas mal réfléchi aussi par rapport à mon boulot, à essayer de prendre du recul aussi, à essayer de moins aller à Paris. Enfin, voilà. Et donc, je m'étais dit... On s'était dit, on prend six mois, je ne veux pas faire de FIV tout de suite, on se prend 6 mois. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai aussi organisé quasiment 15 jours de vacances avec une copine, parce que j'en avais besoin aussi, même de partir sans mon mec, sans être sur l'application à dire, bah tiens, là, il faut qu'on ait un rapport, parce que là, c'est au moment que j'ovule. Enfin, j'avais besoin vraiment de me couper de cette, en gros, cette obsession de faut avoir un enfant, faut...
Oui, c'est clair, et quand tu restes chez toi, c'est ouais. difficile de pas être dans le truc. C'est vrai que partir en vacances, ça fait du bien, quoi.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, je suis partie en vacances. C'était pile pendant les jours qu'on avait programmés. Donc, on est parti aux Canaries avec une copine. C'était pile, en fait, pendant la période d'ovulation. Et je me souviens qu'à un moment, j'avais même réfléchi à me dire non, j'aimerais bien qu'on décale par rapport à ça. Et en fait, je me souviens, j'en ai parlé à des copines. Mais moi, je me suis dit, mais même mon copain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Oui.
Enfin, je veux dire, tu. On s'en fout, enfin je veux dire ce mois-ci, enfin c'est pas grave.
C'est un mois,
on s'en fout, mais c'était tellement, en fait, ça faisait tellement déjà plus d'un an qu'on était dans ce truc où tous les mois faut pas rater le coche, que même là en fait j'étais prête à décaler des vacances parce que c'était la période d'ovulation et qui en fait c'est une grosse connerie. Du coup je suis partie en pleine ovulation, je m'en foutais complètement, c'était génial. Donc c'était un peu.
C'est au mois de février que t'es partie.
Exactement, février.
Et donc, le mois de février passe. Donc là, tu te récupères un peu physiquement, ouais, psychologiquement.
Exactement. Je me suis vachement reposée. Ouais. Le fait aussi d'être entre filles, c'était cool aussi parce qu'on parle complètement d'autre chose. Et tout ne tourne plus en fait qu'autour de cette procréation et d'avoir un enfant. Enfin, voilà. Et puis encore une fois, moi, je m'étais dit, non, voilà, je ne suis pas prête à avoir un enfant à tout prix, en fait. Si ça marche, ça marche, mais je ne veux pas non plus être... J'ai tellement vu de gens gâchés, enfin, pas gâchés, mais... Mettre leur couple à l'épreuve, exactement, pendant les PMA, que voilà, là, je n'en étais pas du tout prête, et... Enfin, j'en étais pas du tout là. Donc, voilà, ça m'a fait un bien fou. Et puis voilà, on est rentré. Et puis après, il y a eu le confinement.
Bam, confinement.
Il y a eu le confinement. Et là, bam, assez bizarre. Et ben en fait, alors le truc qui est assez drôle, c'est que pendant le confinement, donc au début, j'étais un peu une angoissée, parce qu'il faut quand même dire que je suis un peu hypochondriaque quand même sur les bords. Donc du coup, je prenais ma température parce que j'avais tellement peur d'avoir le Covid. Que du coup, je prenais ma température. Et alors, j'avais une copine qui m'avait donné une technique, en fait, qui, elle, était tombée enceinte comme ça. C'était de prendre sa température pour regarder, en fait, quand est-ce qu'on ovule et tout. Et donc, je savais que...
Donc, pas sur l'appli, avec la température.
Exactement. Okay. Alors, vraiment à l'ancienne. crème, la thermomètre, enfin bon bref, encore très glamour tout ça. Et bon, du coup, le matin, il faut prendre sa température. Et donc là, je savais
que quand après on est enceinte, en fait, la température ne rebaisse pas. Enfin non, elle rebaisse avant d'avoir ses règles.
Et là, je mesure ma température plusieurs fois de suite en mars. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre et tout machin. Et donc, je suis allée acheter un test de grossesse.
Alors, c'est-à-dire, en fait, ta température était basse ou...
Non, elle était haute. En fait, elle rebaissait pas. Donc, je m'étais fait un fichier Excel. Ouais. La première fois que je faisais ça, je m'étais fait un fichier Excel avec ma courbe de température du mois de mars. On sait même pas qu'on avait essayé. En plus, ça qui est fou.
Ouais, c'est ça. T'as pas réfléchi à ta période d'ovulation. T'as pas ouvert l'appli.
Pas du tout. D'accord. Pas du tout. On l'a vraiment fait en mode, on se fait plaisir. En fait, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est que j'ai l'impression que depuis un an, tout était dicté, nos rapports, toute notre vie intime était dictée par rapport aux périodes propices. Et là,
à la one again, machin. Bon, je me dis, c'est bizarre. Donc, cette courbe de température, donc j'avais une température qui baissait pas. Alors, au début, je disais.
T'avais combien
pour un fou? Je crois que c'était dans les 37,5, un truc comme ça. Ouais. Et ça doit redescendre vers 36,8, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et au début, j'étais, mais ça se trouve, j'ai le coronavirus. Enfin, bon, j'ai commencé à psychoter là-dessus. Mais bon, je suis quand même allée acheter un test de grossesse. Et là, je le fais sans le dire à mon compagnon. Et en plus, j'avais pas d'aménorrhée, donc mes règles devaient arriver, je crois, une semaine après. Donc je l'ai vraiment fait comme ça. Ouais. Et sans signe, en tout cas sans jour de retard, rien du tout. Et là, je vois test positif, bon. Et du coup, j'en parle. C'est impossible de garder le truc, donc forcément, j'en parle à mon copain et tout. Et il me dit, ah non, mais détends-toi et tout, machin. Parce qu'en fait, on avait déjà eu une fois, j'avais eu un faux positif quand je faisais mes injections. Donc, il avait été un peu chaudé. Donc, voilà. J'ai dit, bon, d'accord. Et...
Sauf que là, t'avais pas d'injection. Donc...
Non, là, j'avais rien. Mais ça faisait 6 mois que je prenais plus rien. Enfin, un peu moins de 6 mois. Bref, donc voilà. Et il me dit, écoute, rachète des tests et puis tu le refais dans 2-3 jours. Bon, impossible d'attendre 2 jours. Donc, je veux dire, j'ai quand même attendu un jour, mais le lendemain, j'en refais. Puis après, j'ai refait, je sais pas, j'ai dû en faire 3-4 d'affilée. Et là, c'était vraiment positif. Donc là, moi, j'étais au taquet. Et du coup, j'appelle mon médecin. Donc, on était en plein confinement. Et là, il me dit, c'est génial, c'est une super nouvelle et tout. Il me dit, écoutez, je vais vous prescrire une prise de sang. Mm-hmm. Et donc, il m'a dit, on va attendre une semaine pour voir bien, enfin, attendre un taux assez élevé de bêta-HCG. Et là, on a fait la prise de sang. Et là, pour le coup, du coup, j'étais enceinte, je crois, de 3-4 semaines.
Donc, grossesse confirmée.
Ouais, plutôt fou en fait. C'était et comme quoi, franchement, moi je pense avec du recul, le confinement m'a fait énormément de bien, le fait de plus avoir de trajet.
Oui. Déjà.
Ouais, je pense que j'étais plus du tout fatiguée, je pense que j'avais pris pas mal de recul aussi pour plein de choses, je pense que j'étais plus enfin, je pense que même le fait d'avoir un enfant était plus pas une nécessité mais je sais pas comment dire.
T'avais pris du recul par rapport à ça, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais, et puis on s'était quand même dit, si on n'en a pas, il y a d'autres manières aussi d'avoir des enfants. C'est vrai qu'on s'était quand même plus dirigé vers une adoption parce que. Pour différentes raisons, parce que mon copain me dit toujours, écoute, il y a tellement d'enfants malheureux qu'il passait. Enfin, lui, c'était plus ça, en fait, plutôt. Prendre, adopter un enfant. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont débloquées. Il y a le fait que je sois reposée. Et voilà, et en tout cas, ça a marché, quoi. Donc, un petit bébé, une grossesse du confinement, quoi.
Une grossesse du confinement, le baby boom du confinement.
Exactement.
Bon, écoute, la suite au prochain épisode. Hein. Du coup, le prochain épisode, ce sera sur ton premier trimestre de grossesse.
Ouais.
Tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, merci pour cette première étape, qui était riche en rebondissement. Ça durait un an et demi, donc.
Ouais.
Tout est pour tout.
Exactement. Qui, d'ailleurs, au final, est pas si long que ça, en fait, pour un couple. Enfin... Moi, je sais que mon gynécologue m'a dit pour un couple, normalement, qu'il n'y a pas de problème. Il faut, en général, ça peut arriver jusqu'à un an. Enfin, je veux dire, le fait de tomber enceinte. Donc, ce n'est pas non plus un temps. C'est juste qu'en fait, quand on a plus de 40 ans, on a l'impression.
Oui, le temps paraît plus long.
Ouais, et puis, en fait, on nous met beaucoup plus de pression. Mmh. En fait. Que, voilà, chaque mois compte, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui n'est pas évident à gérer. Mais au final, un an et demi, c'est pas. Donc voilà.
Bon, super. Bah merci Delphine.
On se revoit
au prochain épisode.
Merci Marie, oui.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt!